Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro au sommaire de cette édition du vendredi 4 octobre 2024. La Tunisie élit son président dimanche alors que les principaux opposants du sortant, Kais Saied, sont en prison.
Dimanche se passe cette élection qui finit par être un non-événement. Alors, il n'y a pas eu de campagne, il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu d'affichage, il n'y a pas eu de rencontre, il n'y a pas eu de meeting, il n'y a rien eu.
Frida Damani, journaliste tunisienne, nous parlera de l'ambiance à Tunis dans la partie magazine. À Maurice, les élections législatives ont été fixées au 10 novembre. En Guinée, consternation après des menaces publiques au nom de l'image du chef du régime militaire. Au sommet de la francophonie, Emmanuel Macron a appelé à faire de l'organisation un espace d'influence diplomatique. Les dockers américains mettent fin à leur grève après un accord de principe sur les salaires. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. En Tunisie, le président sortant Kais Saied en lice pour un deuxième mandat lors du scrutin de dimanche est convaincu d'être investi d'une mission divine pour sauver son pays. Le point avec Eric Manirakiza.
Monsieur Saied ne fait pratiquement pas campagne, se contentant de visites dans des zones déshéritées où il dénonce des complots ourdis par les ennemis de la Tunisie. Dans ses discours, il n'hésite pas à tenser des institutions internationales comme le FMI, dont il a refusé les diktats, et un prêt de 2 milliards de dollars pour la société civile, qu'il accuse de recevoir d'énormes sommes de l'étranger. Sur les 6 candidats validés par la justice, la commission électorale en a refusé 3, et un autre, Ayachi Zamel, a été envoyé en prison. Élu en 2019, M. Saied, de 66 ans, s'est octroyé les pleins pouvoirs le 25 juillet 2021. 3 ans plus tard, il a mis sur la touche les syndicats, les ONG, les partis d'opposition et les journalistes, souligne le vice-président de la FDH, venu récemment à Tunis. 3 ans plus tard, il a mis sur la touche les syndicats, les ONG, les partis d'opposition et les journalistes, souligne le vice-président de la FDH, venu récemment à Tunis.
Le président de Maurice a annoncé aujourd'hui la dissolution du Parlement et la convocation d'élections législatives le 10 novembre prochain à l'approche de la fin du mandat quinquennal des députés. Cette annonce intervient au lendemain d'un accord historique entre Maurice et le Royaume-Uni sur la souveraineté de l'archipel des Chagos après plus d'un demi-siècle de litiges. Les propos d'un représentant de l'État guinéen menaçant quiconque s'en prendrait à l'image du chef de la junte suscitent l'émoi peu après la mort dans des circonstances troubles d'un médecin accusé d'avoir incendié le portrait du général Mamadi Doumbouya. Le point avec Rosine Monizero.
Lors de l'inauguration d'une stèle en hommage au chef de l'État Mamadi Doumbouya, le préfet de Cancan a prévenu les fauteurs de troubles qui vont être tentés d'y mettre le feu. Le premier qu'on attrape, en train de faire ça, partira de la même manière que l'autre est parti, a déclaré le préfet Candy Amara en mandingue. Ces paroles ont unanimement été perçues comme faisant référence au médecin Mohamed Diobaté, arrêté pour avoir mis le feu à une effigie du général Doumbouya à un rond-point de Cancan début septembre et mort en prison à la fin du mois. Deux personnalités de la société civile, Alpha Bayo et Ange Gabriel Haba, ont réclamé le limogeage immédiat du préfet. Des membres du Conseil national de la transition, Jean-Paul Kotembe Douno et Sayon Mara, installés par les militaires au pouvoir et faisant office d'organes législatifs, ont également réclamé des sanctions. Le préfet doit être entendu sur la mort du docteur Diobaté.
Au Soudan, les combats s'intensifient avec la fin des pluies saisonnières. Les forces paramilitaires du RSF ont eu le dessus pendant la majeure partie du conflit. Mais la semaine dernière, l'armée, après avoir boudé les pourparlers menés par les États-Unis en Suisse, a lancé sa plus grande offensive à ce jour dans la capitale Khartoum, avançant sur un pont clé sur le Nil. Au Darfour, les anciens groupes rebelles et les volontaires des camps de déplacés se sont mobilisés pour défendre la ville densément peuplée d'Al-Fasher, dernier bastion de l'armée dans la région occidentale, contre les vagues d'attaques des forces de soutien rapide. Les premières vaccinations contre le Mpox en République démocratique du Congo, épicentre de l'épidémie actuelle, commencent demain samedi à Goma, dans l'Est, a annoncé aujourd'hui le ministre congolais de la Santé. Les premiers vaccins seront inoculés à Goma, capitale de la province du Nord Kivu, aux catégories de population jugées les plus à risque, comme le personnel de santé, les personnes en contact, les malades. L'est de la RDC est la région la plus touchée par le virus. Au total, le pays a enregistré plus de 30 000 cas et près de 990 décès depuis le début de l'année, avec une mortalité accrue chez les enfants. Un tribunal sud-africain a prononcé jeudi 42 peines de prison à vie à l'encontre d'un homme reconnu coupable de 90 viols, surtout sur des enfants, dans une affaire qui avait secoué le pays au moment de son arrestation. La sentence a été annoncée à Nkosinati Fakati, emprisonné et déjà reconnu coupable en 2022 lors d'une audience diffusée en direct par les principales chaînes d'information sud-africaines jeudi.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le 19e sommet de la francophonie s'est ouvert en France. Dans son discours, le président Emmanuel Macron a invité ses membres à faire de l'organisation un espace d'influence diplomatique. Les précisions avec Mouamadou Mfa.
Le président Emmanuel Macron a assuré que la francophonie était un espace d'influence et plaidé pour que ses membres portent ensemble une diplomatie qui défende partout la souveraineté et l'intégrité territoriale sans double standard de l'Ukraine au Liban. La francophonie est un lieu où nous pouvons ensemble porter une diplomatie qui défend la souveraineté et l'intégrité territoriale partout à travers la planète, a-t-il dit devant des dizaines de chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique à l'Indo-Pacifique. Une organisation qui porte le même discours aux côtés de l'Ukraine agressée aujourd'hui, menacée dans ses frontières et dans son intégrité territoriale par la guerre d'agression russe, a-t-il souligné, alors que nombre de pays du Sud ont refusé de condamner l'offensive russe contre son voisin. Emmanuel Macron a aussi appelé à bâtir un ordre numérique protégeant les citoyens pour mieux lutter contre la désinformation, la propagation de la haine en ligne, les discours de haine racistes, antisémites. Les pays membres de l'OIF ont lancé l'appel de Villiers-Cotterêts, invitant les grands acteurs du numérique à bâtir un espace plus sûr et plus divers et à lutter contre tous ces discours de haine.
En Haïti, un gang a tué au moins 70 personnes jeudi et en a blessé grièvement au moins 16 autres, a indiqué l'ONU ce vendredi. Le massacre a été perpétré par des membres du gang Grande Griffe qui étaient armés de fusils automatiques. Environ 10 femmes et 3 nourrissons faisaient partie des victimes. Les dockers américains vont reprendre le travail après 3 jours de grève, ont annoncé jeudi syndicats et employeurs dans un communiqué commun. Le blocage des ports aux États-Unis menaçait de provoquer pénurie et hausse de prix à un mois de l'élection présidentielle. John Lindon.
Dès maintenant, toutes les actions en cours cesseront et tous les postes couverts par le contrat cadre reprendront, indique dans un communiqué commun le syndicat des dockers et l'Alliance maritime des États-Unis qui représentent leurs employeurs. Il déclare avoir conclu une entente de principe sur les salaires sans plus de précision. Mais selon le Wall Street Journal, qui cite des personnes proches du dossier, les employeurs ont proposé une augmentation des salaires de 62% sur 6 ans, qui a été acceptée par le syndicat. Quelques 45 000 membres du syndicat des dockers étaient en grève depuis mardi dans 36 ports des États-Unis sur la côte Est et le golfe du Mexique, faute d'entente sur un nouvel accord social des 6 ans. Avec cette reprise, les deux parties ont 90 jours pour tout mettre en place, a déclaré le président Joe Biden.
Le guide suprême d'Iran, Ali Khamenei, a prévenu aujourd'hui que ses alliés, principalement le Hezbollah et le Hamas, poursuivraient le combat contre Israël et défendu l'attaque aux missiles iraniens contre son ennemi juré sur fond de crainte redoublée d'un embrasement au Moyen-Orient. Les alliés de l'Iran ne reculeront pas, a lancé l'Ayatollah Khamenei dans un prêche devant des milliers de personnes dans une grande mosquée de Téhéran à l'occasion de la prière hebdomadaire. Des frappes américaines ont visé 3 villes du Yémen contrôlées par les rebelles houthis, soutenues par l'Iran, a indiqué la télévision Al-Masira, relevant des insurgés sans plus de précision. Selon Al-Masira, ont été visées la capitale Sanaa et la ville de Hodeida dans l'ouest du Yémen, où des témoins ont entendu des explosions, ainsi qu'à Damar au sud de Sanaa, la capitale. Et pour finir, les autorités ukrainiennes ont annoncé aujourd'hui avoir saisi l'équivalent de près de 5 millions d'euros en espèces chez une responsable soupçonnée d'avoir aidé les réfractaires à échapper à la mobilisation militaire. Ces informations ont provoqué une vague d'indignation sur les réseaux sociaux alors que les structures en charge du recrutement militaire sont largement considérées comme corrompues et que l'armée ukrainienne manque cruellement de recrues après plus de 2 ans et demi d'invasion russe. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Nathalie Barge.
Au Mali, le ministère de l'Agriculture a signé un protocole d'accord pour un partenariat avec OCP Africa visant à renforcer l'utilisation des engrais dans le secteur agricole. Les interventions seront menées sur 3 principaux axes, l'amélioration de la santé et de la fertilité des sols, le développement des centres de services agricoles et la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes dans l'agritech. L'International Development Corporation a accordé un prêt de 14 millions de dollars à Mimbos Resources pour le projet de phosphate Cabinda en Angola visant à lancer une usine de production d'engrais. L'Angola importe plus de 120 millions de dollars d'engrais par an et Cabinda pourrait en livrer annuellement 236 000 tonnes sur 20 ans. Au Togo, la 11e édition du Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé s'ouvre le 8 octobre pour une semaine afin de valoriser et promouvoir les produits agricoles locaux. L'événement sera marqué par le concours de l'innovation agricole et des journées consacrées aux régions, à des expositions de produits, services et technologies.
Place maintenant au sport avec Eric Mandirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
L'athlète kenyane Anyango, deuxième meilleure performeuse sur 10 km, suspendue provisoirement pour dopage.
Et oui, la Kenyane Immaculate Anyango, qui avait signé en janvier la deuxième meilleure performance mondiale, suspendue provisoirement pour dopage, a annoncé ce vendredi l'unité d'intégrité de l'athlétisme. L'athlète de 24 ans, également médaillée d'argent du 3000 mètres au championnat d'Afrique des moins de 20 ans en 2019, a été contrôlée positif à la testostérone et l'érythropoétine, a indiqué cette unité sur son site internet sans préciser la date du test. Elle fait face à une mesure disciplinaire et est interdite de participation à toute compétition ou activité d'athlétisme jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue. Elle encourt jusqu'à 4 ans de suspension selon le code de l'Agence mondiale antidopage, AMA.
Football, le secrétaire général de la CAF fait l'objet d'une enquête de la justice suisse.
L'enquête visant Véron Mosengo Omba, qui a la double nationalité congolaise et suisse, a été ouverte dans le canton de Fribourg, dans l'ouest de la Suisse, pour des faits présumés de malversation financière. Mais dans un communiqué publié sur le réseau social X, le secrétaire général de l'organisation basée au Caire assure que les virements bancaires visés par l'enquête sont légitimes et traçables, qu'ils ont été effectués en toute transparence et qu'ils correspondent à des salaires et bonus qu'il a reçu de la Confédération africaine depuis qu'il occupe le poste de secrétaire général. Présidé par le Sud-Africain Patrice Motsepe, la Confédération africaine de football, qui regroupe 54 fédérations, bataille pour améliorer son image, ternie par de multiples allégations de corruption. Son précédent président, Ahmad Ahmad, a été suspendu en 2020 pour malversation financière.
Enfin, la justice de l'Union européenne bouleverse les règles des transferts en tranchant le cas Diarra.
En estimant ce vendredi que des règles de la FIFA encadrant les mutations entre clubs sont contraires aux droits de l'Union européenne de nature à entraver la libre circulation des footballeurs professionnels, la Cour de justice de l'Union européenne bouleverse le système de transfert. À la demande de la justice belge, la haute juridiction établie à Luxembourg a examiné le cas de l'ex-international français Lassana Diarra, qui avait contesté il y a 10 ans les conditions de son départ du Lokomotiv Moscou. En raison d'une réduction drastique de son salaire, Diarra avait quitté le club moscovite, mais ce dernier avait jugé la rupture abusive et lui avait réclamé 20 millions d'euros, ramené à 10,5 millions d'euros. Conséquence, le club belge de Charleroi avait finalement renoncé au recrutement du Français, par crainte d'avoir à assumer une partie de ses pénalités conformément au règlement de la FIFA étudié par la justice.
Page de sport VOA Afrique, signé Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui chez VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Les Tunisiens se rendent aux urnes dimanche pour des élections présidentielles qui semblent certaines de donner au président sortant, Kais Saied, un autre mandat, ses principaux rivaux étant emprisonnés ou écartés de la course. Joint à Tunis par Eric Manirakiza, la journaliste Frida Damani décrit l'ambiance avant le scrutin.
C'est une élection présidentielle qui se déroulera sur un tour, puisque le législateur, en l'occurrence, dans ce cas-ci, le président Kais Saied lui-même, qui est candidat à sa propre succession, c'est lui qui a décidé qu'il y aurait un tour, parce qu'il veut absolument un plébiscite, comme il l'a eu en 2019. Seulement, l'histoire ne se répète pas toujours, et cette fois-ci, il est quand même redevable de 5 ans de mandat sur lesquels il n'y a pas eu de résultat. Et surtout, on a perdu beaucoup de droits en termes de liberté, en termes de liberté d'expression. Il y a beaucoup d'opposants politiques qui sont en prison. Il y a beaucoup de journalistes également en prison pour des opinions, ainsi que des citoyens. Il suffit de mettre un poste sur un réseau social pour que tout de suite ça puisse être interprété par un juge, etc. Alors, il y a 3 candidats qui ont été retenus, 3 autres qui devaient être réintégrés selon la décision de tribunal administratif ont été refusés par la commission électorale qui est acquise à Kais Saied, qui du coup a même enlevé la compétence du tribunal administratif en matière de recours pour la donner à la cour, l'attribuer à la cour d'appel de Tunis, de telle sorte que personne ne puisse plus être réintégré et que personne ne fasse entendre une voix contraire à travers le tribunal administratif. Et donc dimanche se passe donc cette élection qui finit par être un non-événement. Alors, il n'y a pas eu de campagne, il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu d'affichage, il n'y a pas eu de sondage, il n'y a pas eu de rencontre, il n'y a pas eu de meeting, il n'y a rien eu. Il y a eu des gens qui ont défilé dans les rues, des petits groupes avec des photos des candidats de Kais Saied en chantant des slogans, mais sans aucun programme. Il y a eu l'autre candidat qui lui a fait le tour de la République, mais en parlant aux uns et aux autres dans les cafés. C'est une attitude classique, mais qui n'est pas très porteuse. Il a un petit parti derrière lui, et il n'a pas eu d'autre soutien officiel. Et l'autre candidat qu'on dit déjà malheureux est en prison depuis 15 jours. C'est un industriel libéral et il est en prison pour soi-disant des parrainages qui auraient été pris sur pour sa campagne électorale et qui auraient été falsifiés. Voilà, nous vivons donc un drame politique qui est surtout un grand coup porté à l'état de droit.
Et parmi les candidats, les 3 candidats de l'opposition en lice, qui pourrait faire pencher la balance et peut-être battre le président Saïd?
Quelque chose peut vaincre Kais Saied, c'est le boycott. C'est une très faible participation, ce qui lui donnerait une légitimité très réduite. Parce que c'est là tout le problème. Kais Saied détient tout l'appareil de l'État entre ses mains.
Vous parlez de boycott, mais là, on reviendrait à la politique de la chaise vide qui ne va pas aider à l'opposition ou les candidats qui s'opposent au président Saïd.
Mais ça n'a aucune importance parce qu'eux-mêmes savent très bien qu'ils feront qu'un score très bas. Même s'il y a une participation, parce qu'il risque d'y avoir un trucage, ça il faut se le dire. Kais Saied, on a beau le dire, mais Kais Saied ne laisse aucunement la place à un concurrent quelconque.
Frida Damani, journaliste tunisienne. Une ancienne réfugiée burundaise vivant au Burkina Faso depuis près de 25 ans a fondé une usine spécialisée dans la production de farine enrichie. Cette initiative vise à soutenir les enfants en situation nutritionnelle précaire, en particulier les déplacés internes. La VOA a rencontré Inge Iteka pour explorer son parcours et son engagement. Ce reportage est réalisé par Gildas Da.
À plein régime, ces moulins industriels produisent de la farine enrichie pour enfants. Il faut tout un processus pour obtenir le produit fini dans cette usine dénommée MTA, moulin de transformation agricole, un produit à base de maïs, petit mil, soja, destiné prioritairement à une catégorie de personnes selon Ing Ipeka, promotrice de l'usine.
Les produits finis sont destinés aux personnes vulnérables, aussi aux enfants, pour une bonne croissance. Ça veut dire à partir de plus de 6 mois, on peut consommer la farine. C'est une farine instantanée.
Ayant fui son pays d'origine, le Burundi, Ing Ipeka s'est réfugiée au Burkina il y a 25 ans. Elle va d'abord ouvrir une agence de voyage qui va fermer du fait du Covid. De là, naît une autre idée.
Et pour ne pas renvoyer les employés, on a commencé à produire à la maison. Donc la salle de billetterie, on a transformé en salle de production et on a pu s'y porter pendant 6 mois.
Au fil des ans et au regard de la situation humanitaire du Burkina dont elle a depuis acquis la nationalité, Ing Ipeka décide de passer à une échelle de production plus grande et aider à la prise en charge d'enfants déplacés internes en situation nutritionnelle difficile. De cette usine inaugurée récemment vont sortir 12 tonnes de farine enrichie par jour et respectant les normes requises, comme nous le dit Samiratou Bonkungu, responsable qualité de l'usine.
Nous respectons les bonnes pratiques d'hygiène et de production. Après production, nos farines aussi, nous allons faire des analyses physico-chimiques et des analyses microbiologiques. Avec ces résultats, nous pouvons confirmer que nos farines sont de qualité.
Selon la promotrice de l'usine, les farines sont faites à base de produits locaux.
Nous utilisons la matière première locale, et ce qui permet un développement de la zone rurale. Mais aussi, nous travaillons avec les associations des femmes et des jeunes.
Un impact sur la communauté dont se réjouit Agiratou Souré, représentante du président de la délégation spéciale de l'arrondissement où l'unité de production est installée.
En plus des emplois locaux qui vont être créés, elle soutiendra l'économie et offrira des solutions en matière de nutrition qualitative pour les enfants. Nous célébrons également la force collective de notre communauté.
Près de 500 groupements, associations et autres organisations paysannes assurent la fourniture de l'usine inaugurée il y a peu en présence du ministre de l'Agriculture, dont le département a aussi appuyé l'initiative. Avec cette structure, Ing Ipeka espère contribuer à une meilleure situation nutritionnelle des enfants déplacés internes et de ceux des familles démunies. Pour elle, cela est un engagement. Gildas Da, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
La République démocratique du Congo se qualifie de pays solution pour les problèmes liés au climat. Le pays a pris part à la semaine du climat à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Antoine Roger Bolamba a eu un entretien avec Jean-Jacques Boutamba Bolé, coordonnateur de l'unité de gestion des tourbières au ministère de l'Environnement et du Développement durable en RDC.
La RDC fait partie de ce que nous appelons le bassin du Congo, aux côtés des autres bassins qui, à travers le monde, dont les écosystèmes contribuent énormément à l'atténuation du climat mondial. Je venais de parler du bassin du Congo. À côté du bassin du Congo, nous avons le bassin du Mekong-Bornéo, dans lequel nous avons l'Indonésie, mais aussi nous avons le bassin de l'Amazonie, avec lequel ou dans lequel le grand pays, en termes de superficie des écosystèmes, se trouve être le Brésil. Alors, depuis l'accord de Paris, les États ont pris l'engagement, chacun de son côté, de pouvoir développer ce que nous appelons la contribution nationale déterminée. Ce sont en fait des efforts qui permettent au pays de dire comment voilà, en termes d'atténuation de gaz à effet de serre, nous allons partir du point A vers le point, par exemple, Z. Et sur la ligne de temps, nous allons faire tel travail, tel travail, tel travail pour pouvoir réduire nos émissions. C'est une contribution qui est en fait volontaire. Mais on se rend compte que malgré cette dynamique de pouvoir mettre en place les contributions nationales déterminées, les efforts qui sont développés ou implémentés par les pays ne sont pas suffisamment valorisés. Alors, d'où le problème, comment faire en sorte que les pays de ces trois bassins, dont les écosystèmes contribuent énormément à l'atténuation des climats mondiaux, puissent être rétribués? Alors, le travail que nous faisons dans ce genre de semaine sur le climat, c'est de discuter avec nos partenaires, qui sont essentiellement le pays du bloc nord, pour leur dire, bon voilà, nous sommes en train de faire tel effort, merci de pouvoir regarder comment cet effort peut être reconnu. Donc les discussions ont essentiellement porté sur ce genre de dynamique.
Pensez-vous que la voix de la RDC a été entendue?
Oui, la voix de la RDC a été entendue et nous allons avoir encore d'autres opportunités de pouvoir faire entendre notre voix parce que, comme vous le savez, chaque année, il y a toujours ce que nous appelons des conférences de parties où les pays se réunissent avec des différentes dynamiques qui sont impliquées dans la démarche de la réduction des émissions des gaz à effet de serre et donc on va avoir énormément d'opportunités. Mais pour cette fois-ci, nous sommes venus insister sur un certain nombre de choses et nous avons foi que, bon voilà, nous avons été entendus. Sinon, la dynamique va continuer.
Jean-Jacques Bambuta Bolé, du ministère de l'Environnement et du Développement durable en RDC.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal.
Les bombardements israéliens contre le Hezbollah au Liban ont contraint de nombreuses personnes à fuir leur domicile pour se mettre à l'abri. Parmi les familles jetées sur les routes, des Africains dont une famille soudanaise qui vivait dans le sud du Liban et qui a trouvé refuge dans une église à Beyrouth. Davantage avec Yacouba Ouedraogo.
Après avoir fui la région soudanaise du Darfour, déchirée par la guerre il y a des années, et trouvé refuge au Liban, cette famille de migrants soudanais est à nouveau déracinée. Résidant auparavant à Ankoum, dans le sud du pays, elle a dû fuir les bombardements causés par le conflit entre Israël et le Hezbollah.
Dieu merci, nous avons atteint l'église et nous vivons ici, mais ce n'est pas non plus un avenir. Mon pays, le Soudan, vit dans la guerre, dans la souffrance. Je ne peux pas y retourner, car mon pays n'est pas sûr. Je ne sais même pas où sont mes parents. Depuis que j'ai quitté le Darfour, je ne sais pas où ils sont. Nous avons été déplacés au Soudan, et ici nous sommes également déplacés. Nous ne sommes plus en sécurité.
Malika Jouma, son mari et leurs deux jeunes enfants font partie des nombreux migrants et réfugiés qui ont trouvé refuge à l'église Saint-Joseph de Beyrouth suite à une série de frappes aériennes israéliennes au Liban.
C'est une bonne chose que l'église ait offert son aide. Nous allions rester dans la rue. Où serions-nous allés? Nous vivions sous un pont, ce n'est pas sûr. Si nous rentrons chez nous, ce n'est pas sûr. Ils frappent partout.
L'église qui est devenue un sanctuaire pour les travailleurs migrants au Liban a ouvert ses portes pour offrir un refuge sûr à ceux qui ne peuvent pas trouver d'abri ailleurs. D'après le directeur du projet du service jésuite des programmes pour les migrants, Michael Petro, le nombre de migrants cherchant refuge à l'église a augmenté de façon spectaculaire.
Hier, nous avions 120 personnes dans notre parking que nous n'avons pas pu accepter. La veille, nous en avions 150 et lorsque nous avons essayé de les envoyer dans des centres d'hébergement gouvernementaux, ils ont d'abord été acceptés avant d'être expulsés par la police le lendemain matin. Nous constatons donc que les travailleurs migrants et les réfugiés des pays africains n'ont nulle part où aller en ce moment et que l'accueil est vraiment très mauvais.
Près de 1900 personnes ont été tuées et plus de 9000 blessées au Liban en près d'un an de combats transfrontaliers, le plus grand nombre ayant été enregistré au cours des deux dernières semaines, selon les statistiques du gouvernement libanais publiées mardi.
Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Dion à ce micro. À la mise en onde, Georges Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Radio Mwangaza, Lubumbashi, 102.1 FM, Niamey. Radio Tropique, 99.8 FM, Korogo, Côte d'Ivoire. Et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.